Agro-j'écoute, ça commence maintenant.
L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est.
McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.
L'agroécologie, elle part d'un autre principe. On ne va pas tuer l'insecte ravageur, l'agent pathogène, on va en neutraliser les effets, on va en neutraliser les dégâts.
Agro j'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture.
Pesticides, c'est-à-dire fongicides, herbicides.
Il faut réapprendre, il faut oublier pour apprendre autre chose, parce que des fois, là, on se trompe.
Cible, ça veut dire que ça tue.
Agro j'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
Tous les produits en cible devraient être interdits.
En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan.
Bonjour à tous, je m'appelle Maïka de Vélabre. Aujourd'hui dans Agro j'écoute sur Campus FM, nous sommes quatre jeunes diplômés de l'École d'ingénieurs de Purpan et nous allons vous parler de méthanisation. Mais d'abord, présentation. Je vais animer ce podcast et je suis en présence de Lorraine, Marie et Margot, anciennes camarades de Purpan.
Bonjour Maïka, heureuse de vous retrouver pour faire enfin ce podcast malgré le Covid. Alors moi, actuellement, je travaille en tant que chargée de développement produit à la Melba, c'est une coopérative fruitière dans les Pyrénées-Orientales. Et pour ce podcast, je vais vous parler plus particulièrement des aspects biologiques et techniques de la méthanisation.
Bonjour à tous, moi c'est Marie, je travaille actuellement chez EcoCert en tant que chargée de certification en agriculture biologique et je vais vous expliquer de façon assez générale pourquoi on a décidé de parler de méthanisation et en quoi c'est important de s'y intéresser.
Salut à tous, donc moi c'est Margot, je travaille chez Arvalis, l'Institut technique agricole sur les grandes cultures. Je m'occupe des outils de la décision et dans cette émission, je vais me concentrer surtout sur les aspects agronomiques de la méthanisation.
Merci les filles, on voit des métiers très variés. On vous souhaite le meilleur dans votre début de vie professionnelle. Aujourd'hui, on a à cœur de vous parler de la méthanisation. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce qui nous intéresse d'abord, c'est ce à quoi vous pensez, vous, chers auditeurs, lorsque l'on vous demande votre avis à propos de la méthanisation. On a recueilli les avis de nos proches quand on leur a dit ce mot barbare.
Pour vous, qu'est-ce que la méthanisation ?
Méthanisation, ça me fait penser à méthane, donc ça me fait penser à un problème de pollution par rapport aux vaches, mais je ne sais pas du tout si c'est ça le sujet en fait.
Le méthane, pour moi, c'est les vaches, les pets de vaches.
Je pense que c'est le compost, comment on le fabrique, mais je ne sais pas très bien ce que c'est.
C'est une énergie qui est produite pour permettre aux entreprises de se servir de leurs déchets verts, les végétaux, et qui génère du gaz. Et c'est une énergie verte.
La méthanisation est un procédé qui permet par fermentation de récupérer du méthane pour faire un gaz combustible.
Dans tout ce qu'on a entendu ici, il y a du vrai et du faux, des idées reçues, bon... On va décrypter tout ça ensemble tout au long de l'émission. Mais avant, une première question. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de méthanisation aujourd'hui, Marie ?
Eh bien, alors parce que c'est en lien avec l'énergie. On connaît tous les énergies renouvelables, donc il y a l'éolien, l'hydraulique, le photovoltaïque ou encore la géothermie. Mais il existe aussi le biogaz. Et personne n'en parle de celui-ci. Et pourtant, le biogaz, c'est une forme d'énergie renouvelable qui est produite par la méthanisation et c'est dommage de ne pas le connaître.
Donc en fait, nous allons vous expliquer finalement ce qu'est la méthanisation, ce qu'est rapidement son produit qu'on appelle le biogaz. Et après, on fera un état des lieux de la méthanisation en France en vous donnant un exemple concret d'une unité de méthanisation à la ferme. Ensuite, on approfondira ce qu'est le biogaz. Et comme on aime le concret, on vous parlera des actions locales qu'il existe autour de Toulouse, comme la station d'épuration du Genestus, Tisséo ou encore Ecogaz à Tarbes. Alors restez avec nous pour connaître tous les secrets de la méthanisation. On vous dit tout dans cette émission et sans tabou. Marie, qu'est-ce que la méthanisation ? Dis-nous tout, on veut tout savoir.
Alors, la méthanisation, pour faire simple, elle sert à produire du gaz en valorisant les déchets organiques. Donc en agriculture, les déchets organiques, ça va être les effluents d'élevage, comme le fumier et le lisier, donc les excréments d'animaux, mais aussi les résidus de culture, comme la paille. 88% des unités de méthanisation sont agricoles. Le reste, ça va concerner des décharges, des entreprises de gestion des déchets, des stations d'épuration ou encore des sites industriels qui traitent leurs effluents. Et les déchets, ils peuvent aussi provenir des ménages et des collectivités ou encore des industries agroalimentaires et du commerce. Donc, on va avoir des bouts de stations d'épuration ou des déchets organiques comme le compost.
En fait, tous ces produits que tu cites, Marie, ce sont des produits organiques, donc issus du vivant. Leur processus naturel les rend méthanisables. En gros, tous les déchets vont être rassemblés dans une grosse boîte hermétique qu'on va appeler le méthaniseur. Et dans cette boîte close, en l'absence d'oxygène et avec la chaleur autour des 38 degrés, les produits fermentent. C'est-à-dire que les bactéries vont transformer cette matière organique en un mélange de gaz, dont 60% de méthane. Et c'est ce mélange de gaz qui est extrait, épuré, on retire principalement le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone pour donner du biométhane. Et c'est ce méthane qu'on va appeler le biogaz.
Et après l'extraction du biogaz, on récupère un résidu appelé le digesta. C'est le mélange de tous ces déchets qu'on a mis à l'intérieur au début et qui a fermenté. Donc c'est un peu comme un chou qui deviendrait de la choucroute, hein, big up aux Alsaciens. Donc ce résidu, il peut être réutilisé, par exemple, par les agriculteurs afin de fertiliser leurs terres, car il est très riche en minéraux nécessaires à la croissance des plantes, donc azote, potassium et phosphore notamment.
Ok, c'est très bien tout ça. On voit que c'est un processus naturel, mais qui apparemment peut ne pas être très bien perçu par les riverains.
Ben, c'est vrai qu'en fonction d'où sont stockés les déchets, c'est-à-dire les effluents des animaux ou les boues des collectivités, ça peut sentir mauvais. Et c'est pas très cool pour les voisins. Donc le mieux, ça serait que les déchets ils soient stockés dans un local fermé. Cependant, il y a aussi un autre inconvénient quand on est sur de grosses structures, c'est que les riverains ils peuvent être dérangés aussi par le va-et-vient des camions.
Oui, et l'autre inconvénient, c'est qu'il faut contrôler strictement tout ce qu'on met dans le méthaniseur à cause des risques de pollution aux métaux lourds et à d'autres polluants. Tout dépend en fait de ce qu'on va utiliser comme ressource dans le méthaniseur, mais par exemple, quand on met des boues urbaines, c'est-à-dire les eaux sales des villes traitées par les stations d'épuration, ces boues-là peuvent être polluées. Et donc le digesta qu'on va récupérer pour les épandre dans les champs et fertiliser les sols risque de polluer les sols à leur tour.
Bon, passons quand même aux avantages de la méthanisation. On peut dire que c'est quand même un seul procédé qui nous rend 4 services écologiques. Ça permet d'abord la gestion des déchets organiques, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la production d'énergie renouvelable et la substitution des fertilisants chimiques par des fertilisants naturels. Et puisqu'on est des agronomes parlant pour AgroJécoute, on va parler de ces avantages sur le plan agricole.
Alors, concernant la gestion des déchets, donc la méthanisation, elle permet de recycler les déchets agricoles comme le lisier des animaux. Donc le lisier, ben, c'est tout simplement les excréments liquides, solides ou semi-liquides, enfin tout ça quoi.
Et en ce qui concerne la limitation des gaz à effet de serre.
En fait, ce fameux lisier dont parle Marie produit naturellement du gaz, comme je disais tout à l'heure. En le récupérant par la méthanisation, on limite les émissions de gaz dans l'atmosphère. Donc en effet, le lisier produit de l'ammoniac, et c'est ça qu'on sent et qui pue, à ne pas confondre avec l'armagnac. Et ce gaz se volatilise dans l'atmosphère, c'est pour ça qu'on va le sentir autour des tas de lisiers qui sont des fois entreposés sur des parcelles. Or, l'ammoniac qui se dégage va se transformer en protoxyde d'azote, N2O, qui a un pouvoir de réchauffement global 300 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Donc en enfermant les stocks d'excréments dans le méthaniseur, avant leur fermentation bien sûr, on évite cette fuite de gaz à effet de serre.
Tout à l'heure, j'ai aussi parlé des engrais naturels et des engrais chimiques. Avant toute chose, pourquoi on a l'habitude d'entendre que les engrais organiques sont meilleurs que les engrais chimiques ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Margot ?
Le saviez-vous ? Tout d'abord, lorsqu'on fertilise un sol, on parle d'amendement. Bon, c'est un mot pour dire engrais. On utilise deux types d'amendement. D'abord chimique et après organique, enfin les deux. Donc l'amendement chimique, il est fabriqué artificiellement, donc par un processus qui demande beaucoup d'énergie, ça s'appelle Haber-Bosch. Et les amendements organiques, ils sont fabriqués à partir de matières organiques, d'où leur nom en fait, via un processus naturel. C'est en fait le même principe que votre compost à la maison. C'est eux en fait qu'on utilise en agriculture biologique. Et leur composition à ces amendements organiques, elle est plus complexe que les engrais chimiques et ils mettent donc plus de temps à se dégrader dans le sol et à être disponibles pour les plantes. Et en plus, ils ont l'avantage de participer à la structuration du sol, ce qui est vraiment appréciable en agriculture.
Merci Margot. Lorraine, tu veux ajouter quelque chose ?
En fait, contrairement aux engrais organiques, ce que l'on reproche aux engrais chimiques, c'est surtout que pour les fabriquer, on utilise un processus artificiel polluant et une énergie non renouvelable, souvent du pétrole. Donc avec la méthanisation, il devient possible de remplacer ces engrais qu'on achète par le digestat du méthaniseur. Donc plus besoin d'acheter d'engrais. Par exemple, le bureau d'études Solagro, qui travaille à Toulouse, a beaucoup réfléchi sur la question et a même calculé qu'une unité de méthanisation à la ferme classique permet jusqu'à 20% d'économie en engrais.
Après, faut quand même rester vigilant, parce que même si le digestat, c'est un engrais naturel, c'est comme les autres types d'amendements, en fait. Hein. C'est, les nutriments, ils peuvent s'accumuler dans le sol et le polluer, ainsi que l'eau, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. C'est un mot un peu compliqué. C'est pour ça que les quantités et les périodes d'épandage d'engrais sont réglementées pour éviter ces problèmes, comme on a en tête, par exemple, les fuites d'azote en Bretagne qui ressemblent à des marées vertes. Donc c'est bien, mais c'est pas la solution miracle.
Et je voudrais aussi rajouter un autre avantage, donc la production d'énergie renouvelable. Donc nous avons compris que le biogaz, il est produit par la méthanisation et donc issu de déchets recyclés. Or, les déchets sont une ressource inépuisable, malheureusement. Et cela fait du biogaz une énergie renouvelable qui participe à la transition énergétique.
Ah, mais d'ailleurs, on en est où dans la transition énergétique en France ?
Alors, en France, parmi l'électricité qui est consommée, le nucléaire représente 72%, la combustion fossile 7%, c'est-à-dire donc les ressources non renouvelables comme le charbon par exemple, et enfin les 20% restants sont les énergies renouvelables.
Et pour bien comprendre ces chiffres, il faut différencier biogaz et gaz. Lorsqu'on utilise le terme bio, ça signifie que c'est une ressource renouvelable. Et ce n'est pas le cas du gaz naturel issu d'extractions souterraines qui est souvent importé.
Maintenant, intéressons-nous de près au fameux biogaz en France. Marie, tu parlais de 20% d'énergie renouvelable en France. Mais qu'est-ce que la part du biogaz dans ces 20% d'énergie renouvelable ?
Eh bien, en fait, c'est assez faible. Selon l'Observeur, qui est l'Observatoire des énergies renouvelables en France, elles sont surtout centralisées sur l'hydraulique, l'éolien et le photovoltaïque. Et le biogaz, lui, représente moins d'1% de l'ensemble des énergies renouvelables françaises. Donc bon, même Jean Lassalle a eu un meilleur score lors du premier tour des présidentielles de 2017. Par contre, selon l'ADEME, le gouvernement a pour objectif qu'il représente 8% des énergies renouvelables en France d'ici 2030, donc ce qui est assez optimiste. Et aujourd'hui, c'est la région Île-de-France qui est la première productrice de biogaz en France.
Mais du coup, 8% d'énergie renouvelable, en fait, ça représente quoi ?
L'objectif de l'État, c'est d'atteindre une production de biogaz à hauteur de entre 24 à 32 TWh en 2028 contre 0,4 TWh en 2017, sous l'hypothèse d'une baisse des coûts de production du biogaz. Ça représenterait d'avoir 20 000 camions roulant en biogaz en circulation.
Et un autre apport pour la France, c'est que cette alternative crée des emplois pour construire et entretenir les unités de méthanisation.
Et aussi, un dernier point qui nous tient à cœur, c'est une source de revenus stable pour les agriculteurs ou les entreprises qui leur permet aussi de devenir même des activités à énergie positive. Wouhou !
Ok, ça a l'air super tous ces avantages. Mais bon, si ça produit seulement 1% d'énergie, ce n'est pas très efficace. Si. Déjà, combien il y a de stations en France ?
Il y avait 710 unités de méthanisation en France au 1er janvier 2019. Et concrètement, un méthaniseur égale 500 maisons chauffées en moyenne.
Donc en fait, l'agriculture, ça ne va pas vraiment nous chauffer. Le bureau d'études Solagro montre que dans leur grande majorité, les installations en fonctionnement en France, que ce soit à la ferme ou pas, se situent autour d'une puissance de 100 kW. Et sachant que pour pouvoir alimenter une unité de 100 kW, il faut disposer de fumier produit par 300 vaches, c'est quand même pas mal, pas vrai Margot ?
Bah oui, surtout que la moyenne des cheptels bovins en 2019 était de 117 têtes. Contre 300 têtes, ça fait beaucoup. Hein. Donc un agriculteur qui se lance dans un projet de méthaniseur doit soit avoir un troupeau important, soit avoir des sous-produits méthanogènes, donc encore plus de biomasse pour mettre dans le méthaniseur en plus du lisier, ou alors, ils se regroupent avec d'autres exploitants pour investir dans une telle structure de 100 kW. Après, il y a aussi la micro-méthanisation à la ferme qui se développe beaucoup aussi.
Est-ce qu'on peut parler de la position de la France en Europe, Marie ?
Bon, il faut se le dire, avec ses 710 unités au total en France, on est un petit peu à la traîne par rapport à nos voisins européens. Selon l'Euroobserveur, donc qui est cette fois l'observateur des énergies renouvelables en Europe, l'Allemagne est le premier producteur européen de biogaz avec plus de 10 000 unités de méthanisation en 2015. Et donc, ça représente 14 fois plus qu'en France. Et ensuite, en deuxième position, on a le Royaume-Uni, suivi de l'Italie, la République tchèque et la France qui arrive au quatrième rang.
Et en plus, il faut noter que les stratégies ne sont pas tout à fait les mêmes. On n'est pas sur un même pied d'égalité. L'Allemagne, elle autorise la production de cultures dédiées à la méthanisation, contrairement à la France qui limite à 15% l'apport de cultures dédiées spécialement à la méthanisation. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Hein.
Oui, c'est vrai que ça fait une différence. Bon, maintenant qu'on a bien compris comment on fait du biogaz, qu'on a vu sa position en Europe et en France, parlons un peu plus de la ferme expérimentale de Purpan, la Motte. Purpan dispose d'une ferme expérimentale du côté de Seyss, à côté de Toulouse, et il est installé dans cette ferme un micro-méthaniseur. Celui-ci utilise les ressources de la ferme, c'est-à-dire entre 1000 et 6000 tonnes par an, et revalorise le digestat sur place. Cela apporte un complément de revenus à la ferme. Mais finalement, quelles sont les ressources qui alimentent le digesteur de cette ferme ?
Bon, du coup, dans la moyenne, cette exploitation est en polyculture élevage avec 120 vaches en stabulation et 130 génisses de renouvellement, donc c'est des bébés vaches. Mais il y a aussi des cultures intermédiaires, notamment du métail, qui sont un mélange de fourrage qui peut, en rab, on va dire... être dans le digesteur, quoi. Donc, pour réduire les coûts, la fosse à lisier est aussi couverte pour servir de digesteur.
Petit calcul d'énergie. Avec ce que tu dis, Margot, on arrive à 4000 m3 de lisier qui pourrait donner, du coup, une production de 20 kW par jour. Ça équivaut à peu près à alimenter un frigo pendant 20 jours. C'est pas mal, quand même. Et en plus, le méthaniseur utilise des effluents d'élevage à plus de 60% de ses volumes qui sont mis dans le méthaniseur. Donc, ça lui donne droit à une surcote au moment de l'achat d'électricité, c'est-à-dire que le prix est augmenté sur décision de l'État. Donc, c'est pas mal intéressant.
Et le moteur de ce micro-méthaniseur, il fait de la cogénération, c'est-à-dire qu'il transforme le biogaz en électricité, mais le rendement électrique est en fait assez faible, avec seulement 31% transformé en électricité et 70% de l'énergie est donc perdue en chaleur.
Oui, après, pour l'instant, même si la Motte a une activité de recherche et développement, elle utilise quand même cette chaleur pour chauffer la fosse et arriver à une température constante de 30 degrés, donc pour pouvoir faire la choucroute. Un autre avantage pour la ferme, c'est que le digestat qui servira d'amendement organique, donc pour les champs. Donc tout ça, ça permet une baisse des achats d'engrais azotés de 20%, comme on l'a dit d'abord, sachant qu'en plus, il faut avoir en tête que pour faire un kilo d'azote, il faut 1 litre de pétrole, donc c'est plutôt écolo.
Et c'est pas tout. Avec la couverture de la fosse, il n'y a plus d'odeur, ni de volatilisation de méthane, comme j'expliquais tout à l'heure. Et le dernier point, c'est qu'on produit un engrais qui est super propre, parce qu'avec le chauffage de la fosse pendant la méthanisation, on va détruire toutes les graines de mauvaises herbes qui risqueraient de se retrouver dans les champs après épandage du digestat. Donc, c'est top.
Ouais, au final, c'est tout bénef. Bon, maintenant qu'on en sait plus sur l'état des lieux en France et en Europe et qu'on a en tête un exemple concret avec la ferme de la Motte, eh bien, on peut se demander ce que l'on peut faire du biogaz et comment vous, toi, moi, nous pouvons l'utiliser. Eh bien, on vous laisse le suspense, le temps d'une musique et on revient pour vous en parler. Restez avec nous.
Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs. À la fraîche, au petit matin, le coq nous clame ses chansons. L'année prochaine, oui, c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. La 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 pâturage, aux petits soins pour nos bovines. Les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. Surtout ne te fais pas de mille, on ne va pas trier les lentilles. À côté du puits envolé, avec le cou déjà levé, y aura Jim, notre vedette, on t'attendra de l'île à la buvette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs.
Donc, c'était un extrait de Agriculteur, de l'album du même nom du groupe Oiseau. Vous êtes toujours dans l'émission Agro J'écoute sur Campus FM. On parle toujours de méthanisation. En première partie, nous avons tenté de définir un peu ce que c'était. Et on a vu qu'il y avait beaucoup d'avantages, comme le fait que ce soit une énergie renouvelable et quelques inconvénients, mais qui sont quand même surmontables. Alors maintenant, nous allons nous intéresser aux actions concrètes. Où est-ce qu'on en est en Occitanie et comment on utilise ce gaz dans nos villes? Donc parlons clairement de l'utilisation du biogaz. Si on reprend tout ce qu'on s'est dit au cours de notre première partie, déjà, on sait que c'est un processus qui produit du biogaz et qui est majoritairement composé de méthane. Donc après sa purification, qui est quand même une étape coûteuse, on récupère uniquement le méthane et celui-ci peut être injecté dans le réseau de gaz de ville pour chauffer son appartement, son chauffe-eau ou la gazinière.
Exactement. Sauf que de plus en plus d'électricité prend le pas sur le biogaz pour nous chauffer. Et du coup, aujourd'hui, la majorité du gaz est en fait brûlé pour fabriquer de l'électricité et de la chaleur en même temps. Donc c'est la fameuse cogénération dont j'ai parlé tout à l'heure.
Ok, donc du coup là, on a deux utilisations possibles du biogaz, soit du gaz de ville ou soit de la cogénération. Mais il y a quand même une troisième utilisation qui n'est pas très connue et c'est ce qu'on appelle le GNV.
Ouais, c'est le gaz naturel pour véhicules. En fait, c'est un carburant qui est stocké en bonbonne, comme l'est le GPL. C'est pas très connu parce que bon, autrefois, les bonbonnes de GPL étaient mal maîtrisées et ces bonbonnes pouvaient être dangereuses, mais aujourd'hui, tout est bien plus sécurisé et le GNV n'est pas plus dangereux qu'un autre carburant qui, par définition, est inflammable. Donc, la vraie différence avec par rapport aux autres carburants, c'est que c'est un carburant beaucoup plus propre que l'essence ou le gasoil parce qu'il ne rejette aucun CO2, il ne rejette que du CO2 recyclé et zéro particule fine.
Et surtout, c'est beaucoup moins cher. 1,18 euros le litre en moyenne à Tarbes. Et on peut citer notamment la marque EcoGaz qui en commercialise. Donc ça permet, pour vous donner une idée, de faire 400 km pour 20 euros. Et ce GNV, il se développe de plus en plus pour les véhicules lourds qui sont très polluants, comme les bus et les camions de marchandises.
Et en plus, pour chacun de ces trois débouchés, donc le gaz de ville, la cogénération et le GNV, on observe une multitude d'initiatives locales. Par exemple, chez les agriculteurs, le biogaz produit sur place peut être directement utilisé pour sécher le foin ou encore chauffer une serre.
Et du côté des collectivités, il sert pour chauffer des bâtiments publics, alimenter les bus de ville et qui deviennent d'ailleurs bien moins bruyants.
Maintenant, parlons de l'injection du biogaz dans le réseau. Au final, comment est-ce que le gaz arrive en ville et aux entreprises concrètement? Parce que j'imagine que les stations de méthanisation ne sont pas forcément proches des villes, non?
Une fois que le gaz est produit et injecté dans les réseaux, il est pris en charge par les fournisseurs de gaz qui achètent le gaz donc aux producteurs. Puis, ils le revendent aux consommateurs. Donc, toi, Maïka, pour ton chauffe-eau, moi, pour ma gazinière, les entreprises et tout ça. Et ces fournisseurs, c'est par exemple Air Liquide, Direct Energy, Enercoop et il y en a beaucoup d'autres.
Et ces fournisseurs ont l'obligation d'acheter le biogaz aux producteurs à un prix qui est fixé par l'État entre 40 centimes et 1 euro le kilowattheure sur une durée de 15 ans. Donc ça donne une vraie sécurité aux producteurs. Et ces mêmes fournisseurs paient également une redevance aux différents gestionnaires de réseau qui sont par exemple Terega ou GRDF.
En plus, l'intérêt du gaz, c'est qu'il peut se stocker contrairement à l'électricité.
Et oui, en effet, les gazoducs servent de grands réservoirs et de zones tampons entre les différentes utilisations, ou bien ils peuvent être stockés dans des bonbonnes tout simplement, comme disait Lorraine tout à l'heure. Donc c'est un avantage que n'ont pas les éoliennes, les panneaux solaires et toute autre source d'énergie renouvelable qui produit de l'électricité.
Ok. Est-ce qu'on peut faire le point sur le rapport gaz-électricité ? Au final, ça représente quoi le gaz par rapport à l'électricité ?
Avec plaisir, faisons le point. D'après l'INSEE, la France consomme 55% d'électricité pour 45% de gaz. Mais la majorité du gaz est transformée en électricité. Sachant que le gaz utilisé en France est majoritairement importé, ça laisse sous-entendre que la production nationale est très peu signifiante.
Mais du coup, j'imagine que la production de biogaz dépend des régions en France, non, Margot ?
Oui, en effet, même si la production de biogaz était développée en France, le potentiel de chaque territoire pour les produits méthanisables est différent. C'est vrai, en fait, c'est une activité qui reste très liée à l'activité agricole, donc tous les territoires n'ont pas la même ressource potentielle en biomasse, donc les plantes, etc.
Alors, maintenant, je vous propose qu'on regarde de plus près ce qui se passe chez nous, en Occitanie. Finalement, quels sont les acteurs locaux et comment s'organisent-ils ?
Alors, selon l'ADEME, on comptait 39 unités de méthanisation en Occitanie en 2017 et c'est quand même bien moins qu'en Bretagne où on en comptait 97 au 1er janvier 2019. Mais l'Occitanie est la première région de France pour la recherche sur la méthanisation, autant publique que privée.
Donc, parmi ces 39 unités dont tu parles, Marie, en Occitanie, on a principalement des unités de méthanisation à la ferme et des unités agroalimentaires qui traitent leurs déchets industriels. Et ensuite, on a quelques unités qui centralisent les déchets, les biodéchets, les déchets agroalimentaires ou les déchets de stations urbaines et même des fractions fermentescibles de déchets qui sont triés à la source. Alors, on entend par fractions fermentescibles tous les déchets ménagers qui peuvent être compostés, comme les déchets de cuisine, les déchets verts ou les déchets de papier en carton.
Et du coup, elles produisent toutes du biogaz ?
Alors non, il y a seulement 21 unités qui valorisent actuellement le biogaz en produisant et de l'électricité et ou de la chaleur. Et les autres le valorisent en cogénération ou ne le valorisent pas du tout. Surtout, c'est surtout le cas des stations d'épuration.
Ok, alors revenons à des exemples concrets et parlons de la station d'épuration de Ginestous à Toulouse. Si vous habitez dans le nord de Toulouse, vous connaissez sûrement cette station d'épuration et ses odeurs un peu ragoûtantes qui traînent parfois même sur la rocade.
Ah oui, c'est l'usine qui traite les eaux usées, ça, non ?
Oui, c'est ça. Donc, toutes les eaux usées qui proviennent de Toulouse et ses alentours, comme Colomiers, Ramonville, etc. Donc, au total, c'est 589 000 habitants qui sont raccordés à cette station d'épuration. Elle a dû s'adapter et se moderniser pour accompagner la croissance démographique de l'agglomération toulousaine qu'on connaît bien. Et Toulouse Métropole s'attaque à ce sujet depuis 2 ans maintenant et leur objectif, c'est donc de supprimer les odeurs par le couvrement des boues urbaines stockées venant du traitement des eaux et ils voudraient aussi les valoriser par la méthanisation. Donc avec une production prévue de 50 gigawattheures qui correspond à la consommation de 11 000 Toulousains par an en chauffage et en eau chaude.
C'est vrai que ça serait pas de refus de limiter ces odeurs. Mais du coup, au niveau du processus, comment ils s'y prennent ?
En fait, avant méthanisation, les boues sont collectées et elles sont traitées pour être plus facilement biodégradables dans le méthaniseur. Et après méthanisation, une fois qu'on a extrait le biogaz, on récupère ces boues qui sont digérées et qui pourront ensuite être incinérées et transformées en granulés pour enrichir la terre comme le digestat.
Donc finalement, ce projet a plusieurs objectifs. Déjà, c'est de diminuer de moitié le volume des boues à traiter. Ensuite, injecter le gaz produit dans le circuit de GRDF pour un revenu estimé à un peu plus de 3 millions d'euros par an pour la première année d'exploitation en 2021. Et enfin, de contribuer à la réduction des nuisances olfactives avec la fermeture de la plateforme de compostage des boues de Ginestous.
Ah oui, j'ai aussi un autre exemple totalement concret d'utilisation du biogaz qu'on connaît un peu tous, c'est Tisséo. En fait, depuis 2002, ils valorisent le GNV en l'utilisant dans leurs bus qui transportent des milliers de Toulousains par an. Donc en 2019, déjà, le diesel, ça représentait moins de 50% des moyens de carburant, donc dans les bus. Et avec un total de plus de 600 bus au GNV aujourd'hui, Tisséo vise l'achat de 200 voire 250 bus de plus roulant au GNV entre 2020 et 2024. Donc tout ça, ça représente un budget entre 60 et 80 millions d'euros et qui représente aussi 20% des dépenses de TCO sur une année. Donc, ça prouve que le GNV a de l'avenir.
Ça, c'est vrai. Si on va un peu plus loin que Toulouse, et on reste quand même toujours en Occitanie, et qu'on se rapproche de Tarbes, il y a une initiative un peu particulière, une station de GNV indépendante qui s'appelle Ecogaz et qui est issue d'un projet de méthanisation collectif d'un groupe d'éleveurs.
Oui, en fait, le bureau d'études qui accompagne ce projet s'est rendu compte que les éleveurs ne maîtrisaient pas la vente de leur biogaz. Donc, pour pallier à cela, ils ont créé une coopérative gérant une station de GNV pour commercialiser la production de biogaz des agriculteurs. Cette coopérative, donc, elle a pour adhérents les producteurs, mais aussi les clients de la station GNV, à savoir un transporteur de marchandises qui possède une flotte de près de 120 camions.
Et tout ça, donc, ça a créé une vraie dynamique locale et ça a attiré donc, même une auto-école qui s'équipe en voitures GNV pour ses élèves et une association qui promeut les voitures GNV auprès des consommateurs. Et l'ambition de cette coopérative, c'est se répliquer ailleurs pour pouvoir former un réseau de stations GNV permettant aux routiers de circuler sur tout le territoire.
Ok, ben finalement, on voit que même si le biogaz est peu connu, il existe quand même plein d'initiatives en Occitanie. Les projets cités font partie d'une liste non exhaustive, bien sûr. Sachez qu'il existe énormément d'autres initiatives en Occitanie et partout en France. On se rend bien compte que la méthanisation a de beaux jours devant elle quand elle est bien réalisée et qu'elle respecte les riverains. Malheureusement, c'est maintenant la fin de l'émission et je vais devoir vous laisser. Ne soyez pas tristes, hein, c'est déjà la fin de cette émission, mais je suis ravie d'avoir partagé le micro avec vous, Lorraine, Marie et Margot. Merci pour votre présence et votre implication.
Merci Maïka pour cette animation palpitante.
Merci pour ce super travail. Quel succès !
Ouais, merci à vous les filles, j'espère qu'on a été clair.
Maintenant que nous savons tout sur la méthanisation et le biogaz, pourquoi pas en parler autour de vous ? Cette émission n'aurait pas été possible sans ces différents acteurs. Alors, on remercie tout d'abord fortement la Radio Campus FM de Toulouse de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale de Toulouse et la région Occitanie sur Campus FM. Merci à Thomas Delafosse pour la réalisation et la sélection musicale. Sélection musicale que je vous partage, donc on a pu écouter Oiseau, agriculteur. Nous remercions également Sophie Yvon et Simon Giuliano, nos professeurs et initiateurs de la démarche, pour nous avoir permis de vivre ce moment très agréable et formateur, et avec qui on a réussi à garder le lien jusqu'à aujourd'hui pour enregistrer cette émission. C'était une grande expérience pour nous, et pourquoi pas une bonne occasion de continuer à passer derrière un micro. Il ne faut pas avoir peur. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On espère avoir été aussi précises que possible. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le net ou sur les liens disponibles dans les commentaires du podcast sur le Mixcloud de Campus FM. On vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt dans AgroJécoute sur Campus FM. La bise du coude.
C'était AgroJécoute. Une émission préparée par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Un podcast réalisé par les étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan, en partenariat avec Campus FM et l'Université fédérale de Toulouse.